Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Albert Camus est mort le 4 janvier 1960. Il était philosophe, mais fut rejeté par les philosophes dominants, ceux qui, à gauche, à son époque, soutenaient le progrès En Marche et l'URSS. Deux reproches lui ont été faits. Le premier, celui d'une certaine tiédeur d'engagement, et le deuxième, un manque de consistance. Quant à la tiédeur, elle a été dénoncée en particulier à partir de L'Homme révolté en 1952, où il prend ouvertement ses distances avec le communisme. Et dans les années 50, il a cessé de dénoncer ceux qu'il appelait les bouchers de la vérité ou le socialisme des potences. Tiédeur d'un homme, donc, de gauche, qui était apprécié à droite et qui privilégiait le clair-obscur, le demi-jour, les demi-vérités, alors que beaucoup avaient des engagements francs et massifs pour le progrès, l'histoire et les opprimés. Manque de consistance, car Camus, longtemps, n'a pas été considéré par les philosophes comme un philosophe sérieux. Il était plutôt considéré comme un philosophe pour classe terminale. Et il semble qu'il y a, du côté des philosophes, un regain d'intérêt pour Camus. Jean-François Mattei, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous êtes membre de l'Institut universitaire de France, professeur honoraire à Nice, Sophia Antipolis, et vous avez fait deux livres, en particulier La barbarie intérieure en 1999 et Le regard vide en 2007, qui nous a valu le plaisir de vous recevoir ici. Et vous vous intéressez depuis assez longtemps à Camus. Deux livres en particulier en témoignent, Albert Camus et la philosophie au PUF en 1997 avec Anne-Marie Amiot. Et puis, là, tout récemment, Albert Camus et la pensée de midi chez Ovadia. C'est un colloque que vous avez dirigé. Donc voyons avec vous quels sont les différents points, semble-t-il, que l'on peut retenir dans l'approche philosophique que vous faites de Camus. J'en vois deux en particulier. Sa préférence pour la raison modeste, plutôt que pour la raison érigée en système, d'une part, et deuxièmement, sa préférence pour le monde, plutôt que pour l'affirmation de la conscience. Alors, première question plus personnelle, Camus est né en Algérie et a vécu, en particulier, jusqu'au moment où il est parti, au moment de la guerre, à Alger. Vous-même, vous êtes né en Algérie, à Oran, et tous les auteurs de ce petit Albert Camus et La pensée de midi, tous ces auteurs, donc, sont nés en Algérie. Ma première question est la suivante, c'est considérez-vous que l'Algérie est cette terre natale, cette terre de philosophie, cette terre de la justice qu'il a toujours portée dans son œuvre et dans sa vie ?
Oui, si nous avons fait cet hommage à Albert Camus, 8 universitaires qui sont tous nés en Algérie, la plupart d'ailleurs à Oran et un seul d'entre eux à Alger, c'était pour rendre justice non seulement à Camus, qui n'avait pas été reconnu par l'université à son époque, mais pour rendre justice aussi à la terre d'Algérie. Vous vous souvenez de ce qu'il dit à Stockholm quand il reçoit le prix Nobel ? Il dit « Rien de ce que j'ai écrit jusqu'à présent n'est intervenu sans un lien avec la terre d'Algérie. » Il a toujours écrit en fonction de sa terre natale et en fonction de sa mère, qu'il l'a confondu dans le même amour, en quelque sorte. Il y a un amour matriciel et maternel chez Camus qui relie à la fois la personne de la mère et la personne de l'Algérie en tant que femme. Il y a un côté donc charnel, sensuel chez Camus qui l'attire sous le soleil d'Algérie et plus généralement sous le soleil méditerranéen, qu'il identifie à sa mère. Et vous disiez tout à l'heure qu'il n'a pas été reconnu par l'université. Il n'a pas été reconnu par l'université ni par les milieux intellectuels parisiens, le milieu de Saint-Germain-des-Prés en particulier, qu'il a pourtant bien connu et bien arpenté. Il le dit d'ailleurs à un certain moment dans une des notes du premier homme auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, quand il dit « ce qu'il n'aimait pas en lui, il, au pluriel, c'est-à-dire les intellectuels parisiens, ce qu'il n'aimait pas en lui, c'était l'Algérien. » Il s'est toujours rendu compte que le milieu sartrien et plus généralement le milieu parisien, disons de la rive gauche pour simplifier, avait tendance à le mépriser parce qu'il venait d'Algérie, à la fois parce qu'il venait d'un tout petit milieu, pas simplement pauvre mais misérable, enfin misérable au sens de Hugo, il vivait vraiment dans la misère, sa mère en particulier, et de sa famille, et d'autre part parce que, en particulier pour les esprits progressistes de l'époque, Camus était trop représentatif justement du pauvre ou du misérable qui va se hausser grâce, disons, à l'école Troisième République, grâce à l'école républicaine, tandis que les intellectuels parisiens de l'époque étaient, pour reprendre le mot qui était en usage justement en ces temps-là, étaient des bourgeois. Or Camus n'a jamais été bourgeois, ni même embourgeoisé. Il a toujours ressenti un rapport intime avec la pauvreté, non pas une pauvreté humanitaire et intimidante, mais d'une pauvreté qui avait ses lettres de noblesse. Il y a un côté pauvre-noble à la Peggy, si vous le voulez, chez Camus, qui est tout à fait intéressant.
Mais est-ce que vous considérez que, en plus de cela, donc en plus d'être pauvre d'une part, d'être boursier d'autre part, ce que les autres n'étaient pas, de ne pas être un bourgeois, est-ce qu'il y a une spécificité, une pensée méditerranéenne qui serait propre à Camus et auquel, donc, effectivement, qu'on pourrait voir dans toute son œuvre, considérant effectivement que d'une certaine façon, vous faisiez allusion au prix Nobel, tout le monde se souvient de effectivement cette réplique comme quoi effectivement entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Est-ce que cette mère, cette figure de la mère, ce n'est pas cette figure de l'Algérie, de la terre, de la sensualité qui est extrêmement présente dans sa philosophie?
Je dirais qu'il y a deux choses dans cette figure de la terre algérienne ou plus généralement de la terre méditerranéenne ou de la mer Méditerranée, comme vous voudrez. D'une part, il y a un élément, je dirais, accidentel ou historique, si vous le voulez, qui fait que dans les années 30, en Afrique du Nord, et en particulier en Algérie, et en premier lieu à Alger, qui était la capitale, il y avait tout un courant dit méditerranéen, avec des auteurs comme Gabriel Odizio ou autres, parfois aussi des auteurs d'origine arabe, mais qui écrivaient en français. Donc une littérature française ou franco-algérienne, si vous voulez, qui s'intéressait effectivement aux contours de la Méditerranée en se réclamant à la fois du monde grec, du monde romain, de la tradition méditerranéenne en général, avec des mélanges maltais, espagnol, italien, tout ceci étant fusionné assez facilement en Algérie. Donc ça, c'est l'élément historique et, à mon avis, accidentel, parce qu'il aurait très bien pu ne pas avoir lieu dans les années 30 ou dans les années 40. Et puis, il y a un élément plus profond chez Camus, aussi profond, si vous le voulez, puisque dans cet ouvrage, je fais un parallèle avec Hölderlin, que l'élément germanique chez Hölderlin, la terre souabe chez Hölderlin. Là, c'est la terre algérienne chez Camus, dans lequel Camus se reconnaît de façon, je dirais, ontologique, si on veut parler vocabulaire philosophique, ou de façon cosmologique, si on veut utiliser un vocabulaire poétique. C'est-à-dire que Camus a trouvé dans la terre algérienne une incarnation de ce que j'appellerais tout l'amour du monde, en quelque sorte. Et donc la terre algérienne, pour lui, médiatisée par le personnage de la mère, mère d'autant plus silencieuse qu'elle représente le silence du monde qui ne répond pas à l'attente de Camus, il y a cette dimension, je dirais, d'inquiétante étrangeté, pour reprendre la formule, vous savez, de Freud, à savoir que la familiarité de la terre, la familiarité de la mer et la familiarité du monde laissent toujours chez Camus une impression d'étrangeté. Ce n'est pas un hasard si son ouvrage principal s'appelle « L'étranger ». Et ce n'est pas simplement Meursault qui est étranger au monde, c'est, je crois, Albert Camus, et au-delà de lui, c'est l'être humain comme vous et moi.
Vous avez cité un point sur lequel vous insistez dans votre livre, c'est celui du monde. Vous dites que pour Camus, effectivement, l'ordre du monde dans lequel l'homme est inscrit est plus important, ou il le préfère, à la conscience du sujet. Il y a donc, et il insiste sur cela dans son discours du prix Nobel, il y a donc une responsabilité à l'égard du monde pour empêcher que ce monde se défasse. Donc, quelle est cette conscience qui semble un peu détonnée par rapport aux philosophes et ou aux intellectuels de son époque? Quelle est cette conscience du monde qui était la sienne? Et en quoi est-ce qu'elle nous semble aujourd'hui plus intéressante, plus importante que tous les philosophes de l'époque qui défendaient peut-être des systèmes immondes?
Oui, il me semble que ce qui fait l'originalité de Camus, et je trouve que beaucoup d'interprètes de Camus n'ont pas suffisamment insisté sur cette originalité, c'est qu'il est à peu près l'un des seuls écrivains français, je ne parle pas si en termes de philosophie, de penseur, d'essayiste ou autre, mais un des seuls écrivains français, en tout cas au XXe siècle, à avoir une dimension cosmique, c'est-à-dire avoir un sentiment du monde que vous trouvez en littérature chez des gens comme Giono, provençal lui aussi, enfin homme du Sud, ou même chez Henri Bosco, par exemple, dans l'Antiquaire, ou dans ce texte absolument extraordinaire qui est paru chez Gallimard et qui est inachevé, qui s'appelle « Une ombre », dans lequel vous avez une véritable interprétation cosmique de la Provence, dans la lignée, je dirais, d'un Héraclite ou dans la lignée d'un Hölderlin. Et il y a très peu d'auteurs français, au XXe siècle, encore une fois, qui aient eu ce sentiment d'une approche cosmique, alors que la plupart des écrivains ou des philosophes français avaient une approche historique, c'est-à-dire une approche essentiellement humaine. Lorsque Camus, à la fin de L'homme révolté, qui semble être voué uniquement à l'histoire, puisque c'est la révolte contre l'histoire, contre la condition historique, etc., lorsque Camus fait la conclusion de L'homme révolté, il parle de la tendre indifférence du monde. C'est une expression de sa part, et cette tendre indifférence du monde implique que, d'une part, le monde a une tendresse infinie pour nous. Le monde nous a mis au monde, si je puis dire. Le monde nous a acceptés. Il y a presque l'idée heideggerienne, si vous le voulez, chez Camus, d'un in der Welt sein, de l'homme qui est un être au monde, avant d'être à l'histoire. Il est au monde, l'homme. Fondamentalement, et là, ça le rapproche d'auteurs cosmiques comme Faulkner, par exemple, d'autres écrivains du Sud, cette fois-ci des États-Unis, qui ont un rapport, qui ont une sensualité, qui ont une immédiateté de leur rapport au monde, et par le biais de la parole, évidemment, et de la langue, qui est absolument inouïe. Je pense à Faulkner en particulier, mais à d'autres auteurs du Sud des États-Unis. Et Camus est de cette trempe-là, si vous voulez. Mais en même temps, quand il parle de la tendre indifférence du monde, il compense l'excès de tendresse du monde qui nous accueille d'une indifférence totale. C'est-à-dire que le monde est indifférent à nos malheurs, à l'histoire, à la Shoah, à la mort, à la maladie, à la souffrance des enfants qu'il trouve chez Dostoïevski. Vous savez qu'il a adapté Dostoïevski et qu'il est très très proche de la sensibilité de l'auteur des possédés ou des démons, comme on traduira l'ouvrage de Dostoïevski. Et Camus insiste sur le fait que cette tendre indifférence du monde vient du fait que lorsque l'on s'adresse au monde, lorsqu'on l'appelle, que l'on soit poète, écrivain, artiste, peintre, musicien, le monde, d'une certaine manière, ne répond pas. Le monde est aux abonnés absents. Le monde ou ce qu'il y a derrière le monde, c'est-à-dire Dieu. Et voilà pourquoi Camus est fasciné en même temps par la religion chrétienne, en particulier, on en disait un mot tout à l'heure, par Pascal et par Simone Veil, qui sont ces deux figures tutélaires. Et en même temps, il n'a pas la foi et il se rend compte que, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, n'est-ce pas? Quand il parle au monde, seul le silence lui répond. Alors c'est en même temps le silence de la mer, non pas au sens de Vercors, M-E-R, mais au sens de la mer, M-E-R-E, de la mater et de la mater dolorosa, puisque comme vous le savez, sa mère était non seulement une simple employée de ménage, une simple femme de ménage, mais une femme sourde, une femme retardée mentale et une femme analphabète. Dernier livre de Camus, Le premier homme, est dédié à toi qui ne pourras jamais lire ce livre. C'est absolument bouleversant. À toi qui ne pourras jamais lire ce livre.
Mais le monde, l'idée qu'il se fait du monde, donc la solidarité qu'il a à l'égard du monde, pour empêcher que le monde se défasse, est-ce que ce n'est pas non plus aussi l'idée que vous avez, vous, explorée ailleurs dans d'autres livres, cette idée du monde tel que Arendt le définit, c'est-à-dire ce qui accueille les nouveaux venus, ce qui reçoit cette fraternité des hommes les uns avec les autres. Et puis aussi, est-ce qu'on ne peut pas penser à cette solidarité des ébranlés, enfin, dont parlait Patochka,
Patochka.
Voilà, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, se sentent peut-être exclus dans un monde, si on fait un peu de pensée historique, dans un monde qui était dominé par des systèmes qui, d'une façon ou d'une autre, confiés à l'histoire, excluaient peut-être cette forme de solidarité-là et cette forme d'accueil généreux à l'égard des vivants et des morts.
Vous faites très bien de parler à la fois de Hannah Arendt et de Patochka, parce que bon, Camus n'a pas du tout connu Patochka, qui était totalement inconnu à l'époque, dans les années 60. Patochka, donc l'auteur de cette superbe expression sur la solidarité des ébranlés, qui est très camusienne, puisque Camus sans arrêt insiste sur la notion de solidarité, sur le fait que l'homme doit être solidaire. Et c'est la raison pour laquelle Camus était beaucoup plus proche des anarchistes ou des milieux de résistance au monde, alors là au sens historique du terme, que des milieux politiques qui, eux, ne jouaient pas sur la même veine. Et il est aussi très proche, Camus, de Arendt, qui l'a connu et qui parle de lui, d'ailleurs, à plusieurs reprises. Donc il y a un rapport, ne serait-ce aussi que par le biais de René Char, puisque Arendt, c'est la grande commentatrice, si je puis dire, de la phrase de René Char, « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament », cette superbe formule qu'on trouve dans les feuillets d'hypnose. Et comme vous le savez, Camus a été l'ami intime de René Char. Ils se sont dédiés respectivement leurs livres ou leurs travaux les uns aux autres. Alors je crois que c'est une même famille d'esprit, Hannah Arendt, René Char, Albert Camus, Yann Patochka. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont un rapport profond avec le monde au sens le plus profond du terme, c'est-à-dire cet ordre de l'univers qui nous accepte et dans lequel nous devons laisser une œuvre et pas simplement une trace biologique. Mais en même temps, vous aviez raison de le remarquer, le monde, c'est aussi l'espace qui accueille et qui recueille les hommes, un espace public, dit Hannah Arendt en reprenant une expression de John Locke, cette idée d'espace public dans lequel chacun doit trouver en quelque sorte sa place. Je dis chacun doit trouver sa place parce qu'il y a chez Camus quelque chose qui est extrêmement grec et dont je parle dans mon dernier livre, Le sens de la démesure, où Camus fait remarquer que la déesse qui donne à chacun sa place, c'est la déesse Némésis. À ma connaissance, Camus est le seul ou l'un des seuls auteurs français, en tout cas au XXe siècle, à parler de Némésis, qui est une déesse un peu souterraine, un peu abstraite même, dont parlent souvent les Grecs, mais à laquelle il n'y avait pas tellement de culte qui leur était dû. Le mot grec Némésis vient en grec de némein, qui signifie partager, donner un sort, donner un partage, et que vous retrouvez dans nomos, la loi, d'où l'autonomie, le fait de donner à chacun sa loi. Et la Némésis, c'est la déesse qui est même plus puissante que les dieux, même plus puissante peut-être que Zeus, le père des dieux, qui donne à chacun son sort, son lot, et qui remet chacun à sa place quand il outrepasse la mesure. Et donc la Némésis, c'est à la fois la déesse de la loi et la déesse de la vengeance qui, lorsque quelqu'un a violé la loi et a passé la limite, remet chacun dans ses propres limites. D'où l'importance de la notion de limite chez Camus, qui est absolument fondamentale, en particulier dans l'exil d'Hélène, dans l'été, où il montre que l'homme, comme le monde, doit rester dans ses propres limites.
Nous allons observer une petite page musicale et nous reprenons juste après.
Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger. Un jour tu passes la frontière, d'où viens-tu, mais où vas-tu donc? Demain qu'importe et qu'importe hier, le cœur change avec le chardon. Tout est sans rime ni pardon. Passe ton doigt là sur ta tempe, touche l'enfance de tes yeux. Mieux vaut laisser passer les lampes, la nuit plus longtemps nous va mieux. C'est le grand jour qui se fait vieux. Les arbres sont beaux en automne, mais l'enfant qu'est-il devenu? Je me regarde et je m'étonne de ce voyageur inconnu, de son visage et ses pieds nus.
Nous reprenons notre entretien avec Jean-François Mattei autour de Camus et autour du livre qu'il a dirigé, Albert Camus et la pensée de midi, qui vient de paraître chez Ovadia. Et nous étions en train d'indiquer dans la première partie qu'effectivement, il y avait chez Camus un sens particulier de la responsabilité pour le monde à l'encontre de l'affirmation soit de l'histoire en tant que telle, soit du sujet, enfin de la conscience du sujet. Et je voudrais dans cette deuxième partie, parce que vous y avez fait allusion juste avant, à cette question, à cette notion de la limite. Ce qui frappe quand on lit Camus, c'est d'une certaine façon le sens de la modestie de la raison. Vous citez ce passage magnifique où il dit « Je ne crois pas assez à la raison pour croire à un système ». Donc il y a chez lui un sens de la limite qui semble avoir été intégré dans l'idée même de la raison, alors même que la raison semble, dans les années 50, en train de dérailler, enfin de sortir des rails, enfin de se croire toute puissante. Alors quel est chez lui, chez Camus, ce sens de la limite qui lui est propre et qui l'a fait passer à son époque, pour un peu un tiède?
Là aussi, à ma connaissance, Camus est le seul auteur français qui parle à cette époque, et même d'ailleurs à toutes les époques, c'est-à-dire au XXe siècle, en termes de limite, qui se dit en grec « péras », et en termes de mesure, qui se dit en grec « métrone », qui a donné notre mot français « le mètre », le système métrique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a une vision éthique et cosmique de l'univers telle que l'infini ou l'illimité où tout ce qui serait susceptible de dépasser la mesure doit rentrer en quelque sorte dans le rang, doit revenir dans ses propres limites. C'est la raison pour laquelle, dans l'été, il consacre un texte magnifique qui s'appelle « L'exil d'Hélène ». Hélène, c'est évidemment Hélène de Troie, celle qui a été la cause de la guerre de Troie, c'est-à-dire de la Première Guerre mondiale, au fond, puisque la guerre de Troie, c'est l'opposition des Européens et des Asiatiques, des Achéens d'un côté, c'est-à-dire des Grecs, et des Troyens, c'est-à-dire des Asiatiques de l'autre côté. Et Hélène, d'une certaine manière, doit revenir, qui représente la beauté, puisque c'est la plus belle des femmes, doit revenir dans ses propres limites, et dans tout ce texte qui s'appelle « L'exil d'Hélène », c'est-à-dire l'exil de la limite, l'exil de la mesure, l'exil de la beauté, que nous ne savons plus reconnaître au XXe siècle, surtout après les deux guerres mondiales, Camus demande que l'on fasse retour, que l'on permette à Hélène de revenir en quelque sorte chez elle. Comme s'il demandait à l'Europe, ce qu'il appelle la misérable Europe, et même l'ignoble Europe dans « L'homme révolté », de revenir à ses propres racines ou à ses propres limites, de retrouver son réenracinement dans la beauté et dans la grandeur. Et quand vous rappelez la phrase « Je ne crois pas assez à la raison », il veut montrer par là que la raison grecque, le logos pour parler grec, a toujours été pensée par les Grecs, que ce soit chez Héraclite, chez Parménide, dans la tragédie, Eschyle ou Sophocle, et évidemment chez Platon ou chez Aristote, a toujours été pensée dans des limites qui n'étaient jamais des systèmes, en quelque sorte. Et ça, c'est une idée, je trouve, que Camus a emprunté à Nietzsche. Vous savez qu'il a été un grand nietzschéen dans les années 30 et 40. Il l'a découvert avec Jean Grenier, qui était son professeur au lycée d'Alger. Et Nietzsche a toujours insisté, lui aussi, sur l'idée de limite, sur l'idée de mesure, mais a surtout insisté sur le fait qu'il ne fallait pas se livrer, en quelque sorte, aux excès du système. Il y a des critiques très, très féroces de Nietzsche contre le système, que ce soit le système hegelien, le système kantien, ou toutes les formes de systèmes rationnels qui font sortir l'homme des limites que la némésis, précisément, dont on parlait tout à l'heure, l'ont imparties. Mais j'ajouterai une dernière chose. Non seulement Camus, comme Nietzsche, n'est-ce pas, ne croit pas dans un pouvoir illimité de la raison, et donc dans le système, mais il ne croit pas non plus dans les possibilités de la raison de donner un sens à l'histoire telle que l'histoire deviendrait progrès. C'est cela l'ambiguïté de Camus, surtout vis-à-vis des intellectuels de l'époque, c'est que Camus ne croit pas non seulement à la raison, mais il ne croit pas non plus au progrès. Il y a des textes très très forts de Camus sur le progrès. Vous disiez tout à l'heure qu'il critiquait le socialisme des potences, mais je dirais qu'il critique aussi le progrès des bonnes consciences. Il est anti-progressiste, ce qui fait qu'il a été très très mal ressenti au sens immédiat par les milieux de gauche à l'époque. Je ne parle pas des milieux de gauche politique, bien entendu, mais des milieux de gauche intellectuels qui entonnaient tous des hymnes au progrès, et pas simplement au progrès marxiste ou au progrès communiste, mais à l'idée même de progrès. Et les gens de droite, en tout cas les progressistes de droite du côté de l'économie, par exemple, ou du côté du commerce, ou du côté de la technique et de la technologie, étaient aussi réticents de voir quelqu'un qui ne croyait pas tout simplement dans le progrès. Et il y a des textes très fameux de Camus où il condamne totalement l'idée d'un progrès en histoire ou l'idée d'une téléologie de l'histoire.
Mais cette idée que l'on a maintenant, enfin, nous semble relativement facile à avoir, considérant ce que nous connaissons et effectivement comment les choses se sont terminées. Mais dans les années 50, cette idée d'une raison modeste, donc de ne pas croire au progrès, donc de ne pas croire à l'histoire avec un grand H qui est en marche, est-ce que ce n'était pas une posture qui laissait à supposer qu'il était automatiquement mis sur le banc de la communauté des philosophes, d'une part, et deuxièmement, est-ce que sa pensée n'est pas une pensée qui est plus antémoderne que moderne ?
Oui, je crois que vous avez raison dans les deux hypothèses que vous soulevez, c'est-à-dire que d'une part, c'est le fait de ne pas croire dans l'idéologie du moment post-Seconde Guerre mondiale, encore qu'elle commence plus tôt, l'idéologie du progrès, elle commence au moins avec Auguste Comte au XIXe siècle et avec l'âge positiviste. C'est le fait de ne pas croire dans l'idole du moment même, le progrès, et a fortiori dans cette nouvelle idole que serait le communisme, horizon indépassable de notre temps, comme disait Jean-Paul Sartre, l'ami à cette époque de Camus, mais le fait aussi d'avoir une réticence vis-à-vis même de l'histoire en tant que telle. Camus croyait énormément, on l'a dit tout à l'heure, en la solidarité, il ne disait pas encore des ébranlés comme Patochka, mais en tout cas des petites gens ou des pauvres gens, on le voit dès son premier texte admirable, dans laquelle il a toujours trouvé l'origine de sa pensée qui s'appelle « L'envers et l'endroit », où l'on voit des petites gens dans la vie quotidienne, un après-midi ou une soirée, dans les malheurs de la vie, la plus banale que ce soit, essayer de trouver un sens à l'existence. Donc Camus est du côté des hommes et des femmes, et du côté des êtres, et non pas du côté de cette abstraction que l'on appelle l'histoire, qu'on l'écrive avec un petit H ou avec un grand H. Et a fortiori, il ne croit pas que cette histoire soit menée par je ne sais quel principe abstrait que l'on nommerait le progrès avec un grand P, ou la technique avec un grand T, etc. Et ce qui fait que Camus est totalement original, je repense ce que l'on disait tout à l'heure, c'est qu'il partage en même temps que la même méfiance envers l'histoire que Heidegger, qu'il connaissait très très mal parce qu'il n'était pas germaniste et que Heidegger était relativement peu traduit dans les années 40 et 50, ou au début des années 50, mais il partage aussi la même espérance dans l'idée de limite que Heidegger. Il y a des textes de Heidegger très très fameux sur l'idée de limite, en particulier, je le signale, un texte de Heidegger qui est une conférence qu'il a faite au musée de l'Acropole lors de son voyage en Grèce. Ça parut dans les cahiers de Lerne consacrés à Heidegger, dans lequel Heidegger analyse un bas-relief du musée de l'Acropole célèbre qui s'appelle Athéna à la lance, ou Athéna pensive, dans laquelle on voit la déesse Athéna de profil, qui fiche sa lance dans une borne qui limite précisément un champ. Et il y a une analyse absolument admirable de Heidegger, où il analyse l'idée de limite, péras, donc encore une fois en grec, qui correspond exactement, mis à part le côté plus universitaire de Heidegger et moins poétique que chez Camus, qui correspond exactement à ce que pensait Camus de l'idée de limite. Et donc cette limite, c'est quelque chose qui nous vient, sinon des dieux, comme Athéna semble le montrer ici dans ce bas-relief, mais en tout cas du monde, et en tout cas ne vient pas de l'histoire. L'histoire est au contraire une sorte de projet illimité qui risque de faire sortir les hommes et même l'humanité totalement de ses propres gonds, en quelque sorte. Au sens, d'ailleurs, de la remarque fameuse de Shakespeare dans Hamlet, « Time is out of joint », le temps est sorti de ses gonds. Ça, c'est une idée, je crois, très très grecque, très méditerranéenne, à savoir que le temps, et donc l'histoire, et donc l'homme, ne peuvent pas et ne doivent pas sortir de leurs gonds. Car quand vous êtes dévergondé, au sens propre, quand vous êtes sorti du monde, quand vous êtes dans l'immonde, vous n'êtes plus dans l'humanité, tout simplement. Vous n'êtes plus au monde.
Pour nos auditeurs, quels sont, pour vous, les ouvrages de Camus qui vous semblent avoir le plus de portée philosophique ou qui vous semblent être les plus importants ?
Je répondrai à votre question tout à trac en gardant trois ouvrages auxquels je pense. L'étranger d'abord, parce que c'est un roman, d'ailleurs le roman le plus diffusé au monde au XXe siècle, de tous les romans et de toutes les langues, traduit en Ouzbékistan, traduit dans les langues les plus rares de la planète. Ce qui laisse quand même entendre qu'il y a une dimension, pas simplement singulière, mais universelle, au personnage de Meursault. L'étranger, parce que dans l'étranger, et dans le personnage de l'étranger, et dans le titre de ce roman, qui est d'ailleurs un récit plus qu'un roman, il y a cette idée de déréliction que Camus emprunte à Pascal, qui était l'un de ses maîtres à penser, à savoir que l'homme, d'une certaine manière, se sent et se sait abandonné. Abandonné de quoi ? Soit du monde dans sa tendre indifférence, soit de Dieu, surtout si Dieu n'existe pas. Donc il y a un côté dostoïevskien, mais sans foi, chez Camus. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, c'est le texte qu'on citait tout à l'heure, L'été, avec des essais précisément sur le monde méditerranéen de Camus, et en particulier ce texte qui s'appelle donc L'exil d'Hélène. Et évidemment, troisième texte que je retiendrai, Le premier homme, qui est, à mon avis, le chef-d'œuvre d'Albert Camus, qui est évidemment un ouvrage plus qu'inachevé, qui d'ailleurs devait être inachevé, puisque dans les notes préparatoires à ce roman, est-ce que Camus aurait suivi ses notes jusqu'au bout, je ne sais pas, il dit « le roman doit être inachevé ». Mais le roman a été inachevé par la mort de Camus avec Gallimard dans la face Helvéga qui s'est enfoncée dans un arbre, sur une ligne droite en plus, là on se demande ce que la Némésis, ce que la justice a pu faire, comme rétribution, parce que dans ce roman, Le premier homme, qui devait faire dans les 1000 à 1200 pages, qui devait donc être une saga à la Faulkner, là aussi, considérable, là il en reste à peu près 140 ou 150 pages, Camus aurait atteint le troisième stade de sa démarche, puisque le premier stade était le stade de l'absurde, le deuxième stade pour lui était le stade de la révolte, et le troisième stade devait être le stade de l'amour. Et dans ce premier homme, il y a une sorte d'amour du monde que là aussi Camus partage avec Nietzsche, puisque le titre même, ça n'a souvent pas été remarqué, est inspiré indirectement de Nietzsche, puisque le premier discours de Zarathoustra, dans Ainsi parlait Zarathoustra, est celui où Zarathoustra enseigne le dernier homme, c'est-à-dire l'homme de la fin de l'histoire, en quelque sorte, l'homme qui ne croit plus en lui-même. Et c'est là que Nietzsche dit que le dernier homme doit laisser la place au surhomme. Alors Camus reprend cela, ne parle plus de surhomme, mais parle de premier homme, dans une recherche de paternité d'autant plus curieuse que le premier homme, par définition, ne peut pas avoir de père, puisqu'il est le premier, comme Adam. Et donc ce premier homme doit avoir la force créatrice d'un père, et d'ailleurs la première partie du premier homme s'appelle « Recherche du père ». Recherche du père que l'on trouve aussi chez Nietzsche. Donc là aussi, il y a une sorte de sensibilité commune à ces deux penseurs, qui tous les deux d'ailleurs étaient des penseurs de la pensée de midi, puisque l'ouvrage que j'ai dirigé donc s'appelle Albert Camus et la pensée de midi. Vous savez que cette expression de pensée de midi est due à Nietzsche, qui lorsqu'il vivait à Nice, a découvert à l'opéra de Monte Carlo la Carmen de Bizet, et c'est là qu'il a parlé d'une musique de midi, et au-delà de la musique, d'une pensée de midi, en français d'ailleurs, pour désigner une pensée joyeuse, une Gaia Scienza, pour reprendre l'expression provençale médiévale, c'est-à-dire un gai savoir, qui là aussi serait une gaie musique et une gaie pensée, non pas gaie G-A-Y comme on le dirait aujourd'hui, mais G-A-I-E, une pensée du salut d'une certaine manière et du bonheur, même sans Dieu.
Mais je suis frappé, et on terminera là-dessus, je suis frappé que dans les trois livres que vous retenez, vous, le philosophe, vous, en parlant de Camus, philosophe, vous retenez deux récits ou deux romans qui, a priori, ne rentrent pas dans la catégorie.
Tout à fait, vous avez raison.
De la philosophie.
Mais parce que je ne crois pas que Camus soit un philosophe au sens technique, et a fortiori au sens universitaire du terme. D'ailleurs, il y a des textes très précis où Camus dit « je ne suis pas philosophe », non pas par mépris ou par indigence, mais parce qu'il se sentait plutôt comme un écrivain, plutôt comme un homme de théâtre, il a même été metteur en scène et dramaturge, plutôt comme un journaliste, dans le meilleur des sens du terme. Mais aussi, je dirais moi, que Camus est exactement ce que j'appellerais un penseur. Exactement comme un Borges, puisque je viens de publier un ouvrage sur Borges, toujours aux éditions Ovadia. Borges est certainement l'auteur du XXe siècle qui cite le plus grand nombre de philosophes. Dans les deux ouvrages des œuvres complètes de Borges parus en Pléiade chez Gallimard, j'ai fait le décompte de tous les philosophes, ça dépasse 180. Donc c'est un véritable catalogue de philosophes chez Borges. Alors pourtant, Borges n'est pas du tout philosophe, mais il utilise la philosophie comme une sorte de patte poétique ou de patte même parfois affective pour essayer de retrouver ce que c'est que la condition humaine. Bien, je dirais que chez Camus comme chez Borges, je suis assez attiré par ce genre de penseur, il y a un primat de la pensée, même aussi chez Heidegger, sur la philosophie, non pas simplement la philosophie systématique de l'université, mais même la philosophie au sens de la philosophie d'un Spinoza qui n'était pas un universitaire ou de la philosophie d'un Descartes qui était encore moins que Spinoza, un universitaire. Ils ont un abord qui est l'abord d'une pensée chantante, d'une pensée méditante, d'une pensée musicale qui était totalement hors de mode dans les années 40 ou dans les années 50, surtout à Paris, n'est-ce pas, où une pensée de midi, une pensée chantante, une pensée de type héraclitéen ou de type camusien n'était pas du tout de mise.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup donc pour cet entretien. Je renvoie donc aux auditeurs à ce livre que vous avez dirigé, donc Albert Camus et la pensée de midi chez Ovadia.
Merci. Et merci de votre invitation.
C'est moi qui vous remercie.